Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Émilie, Mathieu, Mohamed, Pierre, Patrick et le coin puits, le coin cuisson, voilà. Le point.
Et ça démarre.
Oh là là, le point cuisson de 20h avec Louis Amen, propriétaire du Momem. C'est dans le 8e arrondissement de Paris. Louis qui est le roi du laquage, qui laque plus vite que son ombre. Alors tout ce qui bouge, il laque. Alors là, c'est des entrecôtes de veau normande. Et bien il a tout laqué. Alors pour laquer, on prend un pinceau, exactement, comme ça, très délicat. Voilà. Et on laque.
Exactement.
Et on laque, et on laque.
Quel
et
ça, métier.
ça donne quoi le, on laque pour donner du goût.
Exactement, bah pour, oui, puis un côté esthétique aussi.
Oui. Ah oui, c'est plus joli quand joli c'est laqué. Voilà.
Exactement.
Vous, la, vous laquez
brillant.
Tout chez vous.
Ouais,
tout dans
tout
la cuisine
brillant.
De Louis. Et laqué, vous servez ces entrecôtes de veau laqués avec quoi, cher Louis?
Avec un petit risotto de céleri rave, donc avec une crème de parmesan et des girolles et un bon jus infusé à la sauge et à la sarriette.
Puis il n'y a pas de voilà. raison de laquer que le canard.
Non, exactement.
Exactement. Bah ouais, ouais. C'est la morale. C'est la morale du jour. De notre côté, c'est un petit jeune qui débute à la télé qu'on reçoit ce soir.
Cette année, pour nous accompagner, on a un petit jeune qui débute à la télé. Je crois.
Mais
je crois qu'ils
aussi.
Sont contents de vous retrouver.
Mais moi aussi, les gars.
Et pas autant que moi.
Sacrément.
Christophe de Chavannes pense avoir fait le deuil de la télévision, mais il a fait son grand retour samedi soir sur France 2. Quelle époque ! C'est le titre de l'émission dans lequel il s'est inventé un rôle, celui d'invité permanent. Il est ce soir notre invité éphémère.
C'est maintenant.
Salut Christophe.
Bonjour.
Salut, bonjour. Ça va bien ?
Salut, salut.
Ouais, bon, bah, plus du tout. Hein.
Là, bon,
non, rien, je vous l'ai
dit. Ah, j'ai même pas
un
vu.
Petit check.
Oh, un petit check. Bravo pour le salut, carton. Gars. Une première samedi soir et 1 100 000 téléspectateurs, presque 18% de part de marché. Ouais. Et surtout des critiques ultra positives.
Très gentilles.
Je vous lis ce qu'écrit le journaliste de Télérama.
Oui, ça va.
Les mecs là, parce que j'ai l'impression d'arriver chez des potes un peu. Toujours un peu cool, un peu sympa.
C'est vrai.
Ouais, c'est bienveillant, c'est cool.
C'est là,
bien.
C'est l'apéro, on va passer à tabac.
Ah, ben ça, je vous connais.
Il y a du veau laqué.
Du
veau laqué.
Très bien.
Ça vous convient ?
Voilà.
Donc, je vous lis ce qu'a écrit le journaliste de Télérama qui a regardé cette première. Mmh. Christophe de Chavannes a tout à fait trouvé sa place de numéro 2 auprès de la patronne, Léa Salamé.
Oui.
Lui, dont certains disaient qu'il tirerait la couverture à lui, voire qu'il boufferait Salamé, mmh, a parfaitement joué son rôle, intervenant à bon escient dans, oui, le cadre imparti et combinant habilement sens de la répartie et franc-parler.
Oui. Il y a quelque chose à dire ?
Ça correspond, non, à ce que vous avez ressenti ?
Non, mais ça me fait super plaisir, surtout. Ça évite. Non, mais c'est drôle parce que j'ai tout à fait trouvé ma place. Non, mais c'est marrant parce que j'ai fait une interview pour Figaro.
Vous dites le contraire.
Et aujourd'hui, ils me font dire le contraire en titre. Genre, je n'ai pas totalement trouvé ma place.
Alors que si.
Bien sûr que si. Donc, oui, j'ai trouvé ma place. Et même, je vais vous dire, c'est un nouvel exercice. Et comme tout nouvel exercice dans la vie, c'est intéressant. Ça fait 30 ans que je suis le patron de mes émissions. Et là, on me propose de ne pas l'être. Et ma foi.
Vous
psychologiquement,
vous
c'est intéressant.
Ouais, il y a moins de pression, vous vous laissez,
ouais,
faire.
Ouais, non, c'est pas qu'il y a moins de pression, machin. Non, il y a de la pression. Il n'y a pas la même. Mais si, puis la pression, on est assez con pour se la mettre tout seul en plus. mais c'est un exercice nouveau, en vrai, que je ne connaissais pas. Quand j'ai fait de la course automobile, quand j'avais un mec devant moi, je voulais passer devant. Quand j'étais à la télévision, je voulais être dans les premiers, puis j'aurais les meilleures audiences, puis je voulais que l'émission soit bonne. Là, mon intérêt principal, c'est que l'émission soit bonne.
Ah, donc là, vous êtes sous contrôle, vous retenez toute l'émission, alors
Forcément un peu, puisque c'est une... c'est pas une posture, hein. C'est une nouvelle nature que je me dois d'adopter.
Et c'était votre idée d'être l'invité permanent ?
C'est mon idée, ouais. Ouais, parce
donc
que je suis pas sniper, parce que sniper, c'est une spécialité... Et puis, je n'ai pas le fond pour être sniper. Je ne suis pas chroniqueur non plus. Je trouve qu'invité permanent, c'était une bonne idée. C'est-à-dire qu'invité, quand je viens ici, qu'à voir, je suis à l'aise. Et, mais je suis plus à l'âge ici que, bah oui, que oui. Samedi.
Vous êtes moins payé ici aussi.
Oui.
Si.
Bah, je ne suis pas payé du tout.
Voilà.
Le problème est réglé.
Mais ce n'est pas pour ça qu'il va falloir
être. Ce n'est pas pour ça que je ne viens pas.
Voilà.
Exactement. Vous êtes prêt pour les infos express de C'est à vous qu'il faudra commenter. On va vérifier si vous êtes bon numéro 2 ce soir-là.
Alors, je râlais sur la clim du plateau de quelle époque, mais là, on a dépassé tous les. Il fait 60.
Il fait okay.
Mais là, on a arrêté la clim.
Oui, oui, non, là, vous n'êtes pas prêt à brancher le.
On met
pas
des plans
de clim, nous, on est écolo, exactement.
Ah, mais c'est très éco-friendly, bravo.
Mais je vous remercie, c'est l'heure des infos express caliente de C'est à vous. Amy.
Eh bien, moi, c'est la fin d'une histoire. C'était la Une de la Provence, d'ailleurs, qui consacre une double page aujourd'hui, la DER, parce qu'aujourd'hui, la série Plus belle la vie a tourné sa toute dernière scène. Alors, vous me direz, c'est le cycle naturel d'une série. Il y a toujours une dernière saison, mais pour Plus belle la vie, c'est un peu différent. Ça a commencé en 2004 sur France 3 et elle a traversé les générations. Elle a battu tous les records d'audience, bien sûr. 20% de part de marché, des pics à 28%. 7 millions de téléspectateurs certains soirs. En 2015, c'était même la série la plus regardée en France en streaming devant Game of Thrones. Ce qui explique aussi son record de... Merci pour l'accent. Ce qui explique son record de longévité. 18 ans que la série existe. 4500 épisodes à ce jour. Et il y a une actrice qui raconte que quand elle a commencé, elle avait 27 ans. Depuis, elle s'est mariée, elle a divorcé, elle a acheté un appart, elle a revendu l'appart.
Les grands-mères.
Donc aujourd'hui...
Ça, c'est le divorce.
Le clap de fin. Et bien, regardez comment ça sonnait.
C'est une fin de Plus belle la vie pour Léa.
Ma première séquence juste là.
T'avais quel âge ?
J'avais 20 ans.
C'est-à-dire il en parle à 16.
37 ans. C'est la maison. Ce qui fait doux. La famille.
Il y avait de l'émotion. Hein.
Ouais, c'est émouvant et c'est terrifiant aussi à la fois parce qu'il y en a qui sont là depuis 18 ans qui disent maintenant il faut que je retrouve un travail, il faut que je repasse des castings, ça a tout changé.
Ils sont marqués.
Ils sont marqués, il faut qu'ils, exactement, il faut qu'ils cassent leur image. Il y en a un qui a dit qu'il allait se raser la tête. En revanche, j'ai retrouvé la dernière voix d'une émission qui était devenue culte. Coucou, c'est nous. Et vous étiez pas une
petite triste. Allez-y, c'est mignon.
Aria.
Nous allons chanter, c'est la dernière.
Alors là, on est sur deux salles, deux ambiances. Vous, pas du tout inquiet, pas du tout triste que ce soit la dernière ?
Oh, triste, si, ému, si, mais c'était un choix de ma part, idiot, hein, somme toute. Mais c'était un choix de ma part, donc.
Que ce soit festif.
Non, c'était que ce soit fini.
Ah, pardon.
Ah, idiot, vous regrettez.
Hein ? Ah, oui, je l'ai regretté longtemps, oui, c'était idiot. Mais ça fait partie des choix bêtes de la vie professionnelle. On se dit, mais j'ai déjà expliqué, mais c'est le karma. Moi, je crois beaucoup au karma. Je me suis dit à cette époque-là, je vais faire cette émission une fois par semaine en hebdo le soir, qui va me donner un peu moins de pression quotidienne. Parce que
du travail, oui.
Vous savez ce que c'est, hein, le quotidien. Puis là, c'était actif. Hein. Enfin, vous aussi, vous êtes actif, mais là, c'était le corps. Et puis, en fait, j'ai fait une émission après qui m'a valu l'accident industriel, etc., tout type machin, alors que j'aurais continué un an ou deux. Je pense qu'on était sur des rails et que c'était bien, quoi. Bon, on s'amusait comme des oufs, en vrai. Hein.
Ah oui, oui. Et nous aussi, devant notre télévision.
Bah, ouais, c'est mignon.
Ah, franchement, ouais. On a regretté. Nous, on pleurait devant notre télé.
Oui.
Oui, enfin bon.
Oui. Symboliquement.
Oui, voilà. Exactement. Mathieu.
Vous vouliez du caliente, Babette. Je vais vous parler sexualité des seniors. Alors, avant, parce que l'étude est amusante.
J'ai rien dit, moi. Hein.
L'étude est amusante et on va y venir. Mais j'aurais précisé que ça vient de l'association Petits Frères des Pauvres qui a lancé une campagne de communication, en fait, sur le sujet pour rappeler que les personnes âgées ne sont pas que des objets de soins, ce sont leurs mots, mais des personnes qui peuvent encore aimer et être aimées. Ça valait le coup de le préciser. 1500 seniors de plus de 60 ans, c'est assez jeune quand même, ont été interrogés. 9 sur 10 affirment éprouver du désir pour leur conjoint. 74% ont encore des relations sexuelles.
Combien ?
74%.
Et c'est de quel âge à quel âge votre...
Des plus de 60 ans.
Jusqu'à
la décéderie. Jusqu'à ce que mort s'en suive.
D'accord.
Vous êtes comment, vous, dans cette stat?
Je suis plutôt dans les moins décédés.
Non, mais dans les 74% ou...
Ah bah oui, affirmé prouvé du désir. Non, bah oui, enfin, j'ai 64 ans, c'est sur mes papiers, moi.
Alors, nous avons envoyé... Babette, deux petits jeunes de la rédaction de C'est à vous. Camille Schmitt et Anaïs Recouli, qui ont osé poser la question à des plus de 60 ans parisiens.
Je pense que la vie continue, que ça soit à 40, 50, 60, 70, 80, il n'y a pas de... Le sexe continue, il n'y a pas de raison.
Ça se fait à son rythme, à un rythme de vieillard.
Beaucoup pensent que c'est fini. Voilà.
Et alors?
Mais c'est une erreur.
Vous êtes concerné?
Je suis beaucoup plus libérée, libre, que quand j'avais 20 ou 30 ans.
C'est-à-dire?
J'étais un peu coincée, quoi.
On ne va pas vous faire un dessin.
Et la vie sexuelle est comme à 20 ans?
Non. Non. Pas comme à 20 ans, mais aller autrement, aller plus tendre.
Stop au cliché donc, et oui, à l'expérience, c'est ce que je retiens de ce sujet. L'étude nous apprend aussi que 94% des personnes de plus de 60 ans se déclarent amoureux ou amoureuses de leur conjoint.
Bah voilà.
94%, c'est énorme.
Beaucoup, ouais. Je ne suis pas tout d'accord avec le monsieur. Moi, je pense qu'à 20 ans, la sexualité est moins épanouie qu'après, forcément.
La dame qui dit, voilà, plus d'expérience, oui. Moins coincée, plus à l'aise, plus... Vous confirmez?
Oui.
Vous êtes notre témoin de plus de 60 ans sur ce plateau.
Ah oui, pour tout, alors. Mais le cul, surtout.
Invité permanent pour le sexe.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'aimerais bien, ça ne me dérangerait pas. J'ai plein d'avis sur la question. Pas sur les questions.
Mais il était temps de les donner.
Oui, oui.
Je vous tends 12 perches depuis tout à l'heure.
Si vous pouvez employer un autre mot.
Mohamed.
Moi, je vous présente ce soir la nouvelle star chinoise. Elle s'appelle Tang Yu. C'est la nouvelle PDG d'une entreprise chinoise du jeu vidéo. Physique policier et ton de manager qui vous rappellera peut-être votre N+1, Christophe. Sauf que Tang Yu n'est pas une femme comme les autres. Il s'agit d'un robot, ou plus exactement d'une intelligence artificielle. Ah, oui. Et elle dirige aujourd'hui la filiale du géant chinois du jeu vidéo NetDragon Websoft, une filiale qui emploie des milliers de salariés et brasse des milliards de dollars.
大家好，我是我们轮值CEO 唐钰，很高兴能以数字人CEO的身份和大家见面。未来我将主要承担两方面的职责：对外，我会持续为元宇宙组织发声，披露公司战略和成果。
Ce n'est pas une blague. Elle a été créée. C'est de l'intelligence artificielle avec des millions d'informations qu'elle a ingérées, comme de l'économie. La jeunesse de cette.
Donc en fait, elle fait des conférences ou des.
Elle tient des conseils d'administration, elle prend des décisions.
Avec des vraies personnes.
Oui, c'est ça, la jeunesse de cette première mondiale, Christophe, remonte en fait à 2017. La société chinoise avait décidé de créer un personnage artificiel pour la nommer numéro 2 de l'entreprise. Finalement, on a choisi de la mettre numéro 1. Le but était de montrer à ses clients qu'une intelligence artificielle pouvait avoir des responsabilités, faire fonctionner la vie réelle d'une entreprise en signant des documents et en arrêtant des sanctions, par exemple. Et il se trouve que Tang Yu a évidemment...
Elle gère des gens,
Elle a évidemment plein de qualités. Elle ne demande pas à être payée. Elle travaille 24 heures sur 24. Elle ne prend jamais de vacances et n'a pas de saut d'humeur. En clair,
moi, j'avais peur d'un truc, c'est vraiment l'environnement. Et là, j'ai peur de deux trucs, maintenant.
Oui, voilà.
C'est la déshumanisation de...
Pardon ?
Oh, ça va. Oh. Oh, ça va, ils en montent tout le temps des trucs. Oui, vous savonnez comme une malade. Et la déshumanisation, voilà. Il est sorti
tout
seul.
Ah oui, c'est sorti tout seul.
Du futur.
La déshumanisation.
Oh, ouais. Bravo.
Alors maintenant, c'est très...
Pour la cuisine ou
quoi ? Point cuisine. Point cuisson. Tout de suite, l'œil de Pierre, qui est hyper humain, très humanisé.
Et vif.
Et vif.
Temps en temps. L'histoire du journal Libération, c'est une des plus belles histoires de la presse française. Ça pourrait presque faire une série qui sera à la fois moderne, nostalgique, politique et drôle. Un bouquin formidable vient de sortir, Libération, nos années folles, de 1980 à 1996, signé Marie Coleman et Gérard Lefort, deux plumes essentielles des pages culture, le tout très joliment illustré par Pochep. Ces années folles, c'est l'histoire de Libé, créée en 1973 par Jean-Paul Sartre, que Serge Julie, son patron, décide de stopper en février 81 et qu'il relancera deux jours après l'élection de Mitterrand, qui a été élu, vous le savez, le 10 mai. Journalisme résolument moderne et créatif, happening permanent, tout est dans cette bande dessinée extraordinaire. Par exemple, quand Gérard Lefort, l'un des auteurs, qui dirigera les pages médias, est engagé en 81.
et une assemblée de crise et tout pour savoir si oui ou non je dois être embauché. Il y a tous les journalistes. Serge, Julie arrivent en disant bon, alors il est bien évident que Gérard est embauché. Et là, on va voter, dit Serge. Ah bon ? Et donc, qui est pour ? 4 mains se lèvent. Qui est contre ? 20 mains se lèvent. Et Serge conclut bon, bah c'est d'accord, il est embauché, il commence demain. Et il se casse, le grand lâche. Il me laisse avec cette meute hurlante. Mais c'était vrai, le lendemain, j'étais embauché, j'étais journaliste permanent, Libération, et je dirigeais à l'époque le service télévision.
En 81, et pendant 2-3 ans, Serge Julie, dans des éditos formidables, en page 3, va décrypter pour nous, toutes et tous, les méandres de la pensée mitterrandienne. Et pourtant, quelques mois avant, il s'était trompé de pronostic.
En janvier 81, Serge nous dit devant une assemblée médusée, écoutez-moi bien, et je sais de quoi je parle, François Mitterrand ne sera jamais élu président de la République. Voilà. Alors il avait été mal conseillé, mal renseigné par un célèbre, on ne dira pas le nom, célèbre publiciste qui allait faire la campagne de Mitterrand, qui lui avait dit non mais on y va, mais on sait qu'on va perdre et tout. Et après il y a cette première une géniale au redémarrage de Libé, c'est enfin l'aventure. À tous les sens, c'était polysémique, hein, ça voulait dire beaucoup de choses, enfin l'aventure.
Alors Serge Joly paraît avec quelques surnoms, on le connaît bien pourtant, mais j'en ai découvert quelques-uns dans le bouquin.
Un Julot et aussi Citizen Julie, parce que évidemment le film préféré de Serge Julie, c'est Citizen Kane. Et ce qu'il aime par-dessus tout dans Citizen Kane, c'est la scène où il y a un type qui est censé faire la critique de la femme chanteuse de Randolph Hearst et que finalement il arrache la feuille et c'est lui-même qui écrit la critique. Alors ça, Serge, il le vivait ce truc.
Alors, jeune ou vieux, faut vraiment lire ce bouquin, si bien dessiné et si bien raconté. Vous y retrouverez la saga des fameuses unes, magnifiques à chaque disparition de personnalité. Dès qu'un type meurt ou une femme, on se précipite pour voir Libé. Vous y retrouverez Belmondo à Cannes ou même Clint Eastwood. Enfin, vous verrez la BD en face de Marie Coleman et qui lui dit « Il faut que vous compreniez une chose, chère madame, qu'ils soient commerciaux ou non, je ne fais pas de film pour des bouffeurs de pop-corn qui se lèvent toutes les 10 minutes pour aller pisser. » Et puis vous trouverez ce goût inépuisable des gens de Libé pour les assemblées générales.
Il y avait une AG de crise toutes les 20 minutes, à peu près, donc, au terme duquel tout le monde se traitait de crypto-fasciste, de social traître, c'était le grand truc. Les bagarres, mais physiques, on en venait aux mains assez souvent. Genre, salaud, pan, pif, paf. Avec Marie, on assistait à des scènes où un se prenait un pain, on voyait les mocassins qui volaient en l'air, et le mec se relevait et il disait « nazi ». Pas de bol, le mec qui traitait de nazi était juif. Donc ça, hop, un deuxième bourre-pif. Vous voyez l'ambiance. Mais qu'est-ce qu'on a pu se marrer, surtout.
Et vous êtes même dans la BD parce qu'il raconte un jour où vous avez appelé, parce que vous trouviez que le critique de Libé, qui s'appelait Bill Chernow, Chernow, était vachement bien. Vous vouliez l'inviter dans C'est mieux l'après-midi. Et puis ils ont dû vous expliquer que finalement, le mec n'existait pas. C'était un truc collectif.
Alors, je vais rajouter un truc un peu plus perso dont tout le monde se fout.
Non.
Et ça me fait trop drôle de voir Gérard Lefort, que j'ai vu quand j'avais 13 ou 14 ans, et qui était l'amoureux de ma sœur, qui avait des cheveux bruns jusque-là, qui était... voilà, ma sœur était une intellectuelle et sortait avec Gerson. Et après, quand j'en ai entendu parler, ça me faisait à chaque fois marrer de voir les critiques et la plume qu'il a. Enfin, qu'il avait qu'il encore, plus. J'imagine, hein, de Gérard. Voilà, à qui je dis bonjour, hein, si jamais il regarde.
Voilà.
Libération, vos années folles, 80-96. Il faut vraiment acheter, c'est vraiment bien.
Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du vu, ce qu'il ne fallait pas rater hier à la télévision.
Succès des pulls, écharpes, couvertures. Cet hiver, tout substitue au chauffage. Sera bon à prendre.
Après le col roulé de Bruno Le Maire hier, la doudoune d'Elisabeth Borne. La première ministre ne se montre plus qu'en doudoune.
Des primes. Si vous consommez moins, c'est ce que proposent des fournisseurs d'énergie à leurs clients. Les plus sobres peuvent espérer plusieurs dizaines d'euros de récompense.
Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge. On éteint le linge, honnêtement, c'est pas très compliqué à faire.
Des gestes, alors que les géants de l'énergie enregistrent des bénéfices records. Au premier semestre, plus de 10 milliards d'euros pour Total. 5 milliards pour Engie. Clap !
Une prime pour les clients sobres et de gros dividendes pour les actionnaires de Total Energy. Le groupe va verser un acompte sur dividende exceptionnel de 2,6 milliards d'euros.
Je me disais, des gens qui ont tellement d'argent, ils peuvent faire des choses vraiment très intéressantes, quoi. Je trouve que quand tu es à Portofino et que tu décides d'aller dîner au Ritz un soir en prenant un avion privé, je trouve que c'est la fin du monde, quoi. Tu vois, ça veut dire que tu n'as rien d'autre à foutre, quoi. C'est l'ennui absolu, quoi.
Coup de massue ce soir pour les 2600 salariés de l'ancienne de prêt-à-porter Camaïeu. Ils viennent de perdre leur travail. Le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire du groupe.
À l'annonce du verdict, les larmes et le désespoir.
Toute une vie à la poubelle. On fait comment maintenant ? C'est lui qui va nous payer les loyers ? C'est lui qui va nourrir les familles ?
Il y a un an déjà, vous mettiez en place une première réforme de l'assurance chômage. Quel bilan vous en avez tiré ? Par exemple, pour Aurélia, qui s'occupe d'enfants handicapés, qui est en CDD prise et reprise par une association, elle passe de 900 euros à 707 euros. Elle a peur de perdre sa maison. Elle bouffe des pois fichiches tous les jours. Elle n'a rien pour son fils étudiant. Voilà ce que vous avez fait l'an dernier. Oui, 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 oui.
Oh. Oh putain, on est dans la merde, ça y est, voilà, voilà, voilà.
Allez, on est foutu.
On a une vraie alerte. On a bien identifié dans plusieurs catégories de population la situation s'aggraver. Il nous avait été expliqué que ça allait s'améliorer. Nous, on n'a vraiment pas vu d'amélioration. Et c'est pas seulement nous, je veux dire, c'est la population elle-même qui n'a pas vu d'amélioration.
Je me vois trop dans une maison avec un chien blanc, des enfants et un mari. Infirmière. Ah là là, c'est angoissant, je trouve, le futur, en vrai.
En France, une récente étude révèle que un enfant sur deux en primaire et 100% des collégiens ont déjà vu des images pornographiques. Internet, un robinet ouvert sur des contenus violents, mettant en scène parfois des viols, des actes de torture et de barbarie. C'est ce que dénonce un rapport rédigé par 4 sénatrices.
Page 89, on voit une infographie qui montre les catégories disponibles sur les sites les plus visités en France, catégorie problématique.
Je suis une génération désenchantée.
Des parkas noirs sans logo ni blason pour ces joueurs de foot iraniens. La scène s'est déroulée hier en Autriche avant un match amical contre le Sénégal. Une manière pour ces joueurs de protester symboliquement contre la répression qui sévit actuellement dans leur pays.
Mesdames, ça il va falloir que vous acceptiez, ils ne veulent pas voir les femmes vivre comme ici.
L'attaquant vedette de la sélection iranienne Sardar Azmoun, qui évolue dans un club allemand, ose même prendre position publiquement sur les réseaux sociaux.
La punition ultime est d'être expulsé de l'équipe nationale, ce qui est un petit prix à payer pour même une seule mèche de cheveux d'une femme iranienne. Je n'ai pas peur d'être évincé. Honte à vous d'avoir si facilement tué le peuple et vive les femmes d'Iran.
Celui qui possède un cœur pur atteint l'éveil suprême dans cette même vie. Mais ceux qui cachent des mauvaises intentions tombent facilement dans la folie.
Les jours passent et la file ne fait que s'allonger. De jour comme de nuit, une foule dense agglutinée contre le poste frontière géorgien pour fuir la Russie. Sur cette image satellite prise hier, des embouteillages sans fin, il y aurait 16 km de bouchons avant d'atteindre finalement le poste frontière.
L'annexion de ces 4 provinces ukrainiennes pourrait être rapide. En tout cas, c'est ce que veut le Kremlin. Pourquoi ? Parce que ça permettrait d'enrôler de force les hommes de ces 4 provinces dans l'armée russe.
Oui, c'est un des facteurs. Et c'est aussi une manière d'essayer de sanctuariser en fait, ces territoires.
À 26 ans, je ne veux pas rentrer chez moi dans un cercueil ou avec du sang sur les mains. Tout ça pour la guerre d'un seul homme qui veut construire un empire.
Notre position sur la façon de voir et de traiter la question de l'Ukraine est cohérente et claire. Autrement dit, la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays devraient être respectées. Ces objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies devraient être respectés.
Il faut mêler la finesse à la force, comme quand tu traites une IAC. Tout le monde peut maîtriser les techniques du yoga secret. Mais peu de gens arrivent à voir l'interdépendance de toutes choses. Que tout est lié. de la méditation à la compassion. Tout ne fait qu'un.
Voilà pour le vu du jour. Débit, mitraillette, insolence et décontraction. C'est ainsi qu'en 2002, la Libre Belgique décrivait le style de Chavannes. 20 ans plus tard, le débit est un peu plus posé.
Oui.
Mais le ton est toujours aussi singulier, notamment face à Jean-Luc Mélenchon, dont le message de soutien à Adrien Quatennens avait suscité, on s'en souvient, un tollé.
Quand je vous lis, je me dis, merde, il est décalé. Ouais. Aujourd'hui, en 2022, est-ce qu'un homme d'État, qui peut-être, en plus, on le lit ici ou là, peut se représenter dans 4 ou 5 ans, peu importe, est-ce qu'il n'est pas déconnecté de la société en disant quelque chose qui n'est pas audible, c'est-à-dire faire un tweet comme celui-là, mais vous... qui est, on fait fi.
Non,
de...
non.
Pardonnez-moi, mais enfin... ça n'est pas en connexion avec la société. C'est inacceptable, en fait, de vous lire comme
mais
ça.
Vous avez le droit de gens... penser que c'est inacceptable.
Mais beaucoup de gens l'ont senti.
Repassez-moi. Mais bien sûr, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas avoir mon opinion. J'essaye de tenir une position de raison.
Vous avez été pugnace face à Jean-Luc Mélenchon, surtout vous l'avez dit, pas assez.
Non, parce qu'en fait, jusqu'au bout du bout, il ne présente aucune excuse, en fait. Il accepte la critique, ok, c'est la moindre des choses. Non, non, j'étais étonné parce que je le dis, voilà, parce que un homme d'État personne ne peut accepter aujourd'hui dans les conditions de la société dans lesquelles on évolue un tweet comme celui-là. Donc un homme d'État qui dit peut-être dans 5 ans je reviens, dans 5 ans ça va être dans quel état la déconnexion?
Oui,
et
parce
pourtant, c'est un homme brillant. Enfin,
il voilà. Faut rappeler qu'il il saluait le courage et la dignité d'Adrien Quatennens.
Dans un premier tweet, oui.
Qui avait,
sans dire un mot de la victime.
Voilà, qui avait reconnu avoir giflé sa femme sans dire un mot de la victime. Ouais. Et ce que vous vouliez, c'est qu'il s'excuse.
Mais c'est pas ce que je veux. Mais
oui, en tout cas.
Peut-être aurait-il dû, pour être encore mieux compris. Pour voilà.
Et c'est le fait de ne pas être journaliste, parce que vous avez eu la carte de presse pendant un certain
nombre
d'années.
Oui, 42 703.
Et vous l'avez plus, 43 000. Et c'est ce qui vous permet de poser ce genre de questions?
Non, c'est pas parce que je n'ai pas ma carte de presse, c'est parce que je suis un citoyen comme tout le monde, que je ne suis pas un fin politologue, je n'ai pas ni les études, ni les connaissances en politique pour pouvoir m'exprimer comme peuvent le faire brillamment certains éditorialistes ou journalistes politiques. Moi, je pose des questions d'un homme de chez moi qui regarde la télé, qui a suivi les différents...
Débats
Oui, puis les grosses manifestations, je trouve pas le mot, les meetings de Mélenchon avant les présidentielles. Il y en avait un fameux à Nantes, qui était le même jour d'ailleurs de celui de Valérie Pécresse, un peu plus tard. Enfin voilà, et je... En fait, je n'arrive pas à saisir comment il n'y a pas quelqu'un à côté qui dit « Écoute, c'est pas possible que tu écrives ça. » Alors oui, au bout de 3 heures, il en écrit un autre, mais qui est encore pire parce que voilà, c'est un rétropédalage. Mais voilà, je pose des questions. En fait, j'avais un peu peur pour ne pas me cacher parce qu'un jour, j'avais été invité dans une émission en prime avec Laurent Roquet qui m'avait invité dans un « On n'est pas couché » où il y avait Yann Moix et Jean-Luc Mélenchon qui avaient fait un concours de connaissances culturelles qui était... Il fallait vraiment avoir fait beaucoup d'universités pour les suivre, différentes. Et je m'étais dit, oulala. Et là, non, il est devenu, d'ailleurs, il ne dit plus les États-Unis d'Amérique, il dit les Americanos. Enfin, voilà, non, j'essaie juste de poser les questions qui malin. Voilà,
et il y aura d'autres invités politiques dans
Oui, la semaine prochaine, on a... Enfin, la semaine prochaine, non. Cette semaine, nous avons Rachida Dati.
Et vous allez lui parler de quoi?
Je vais lui parler de plein de trucs à Rachida Dati. C'est rigolo, parce que c'est quand même une femme qui fait visiblement un peu peur à tout le monde. Tout le monde lui court un peu après pour l'avoir comme support. Je ne vais pas dire maintenant, j'en parlerai samedi.
Bon, en tout cas, on a découvert le nouveau de Chavannes après que Léa Salamé, en tout début d'émission, a rappelé ce qu'était l'ancien avec un petit florilège qu'elle a lancé dès le début.
Est-ce qu'Ariane a dit quelque chose à notre public?
Regardez la petite.
On t'aimait bien, c'était alors, sympa ton émission.
Je vais me mettre là, au milieu des deux cubes, et lui, il va passer au-dessus.
Oui. Hein.
Que peut faire une femme pour avoir plus de chances de tomber enceinte?
Une IVG.
Yeah.
Ça va passer à la télé, ça?
Ça va passer à la télé, oui. Pour conclure, merci.
Voilà, Donc ça, c'est le Chavanne d'avant.
Alors, il y a eu Simon Mardi aussi un peu avant.
Oui, bien sûr.
Non, Simon Mardi qui était quand même
une
notamment
l'émission.
Non, mais pardon, qui était une émission de débat, qui était notamment, pardon, la première émission sur le sang contaminé.
Oui, oui, mais je me suis contenté de reprendre simplement.
D'accord, d'accord.
Le petit mix de. Qu'a lancé Léa en début d'émission. Comme vous avez dit dans une interview que 30 ans après Ciel Bombardi, vous aviez plus de maturité, plus de recul, plus d'expérience, plus de cerveau, plus. Ma question, qu'est-ce que vous avez de moins ?
Qu'est-ce que j'ai de moins ?
C'est con, hein, mais j'avais pas d'autres questions.
Ah oui, ben je... merci de le dire.
Il est hallucinant, Patrick.
Non. Bah oui, si.
Tout en plus, alors.
Quand on est jeune, on se dit ah les vieux cons, ah les vieux qui parlent de leur sagesse, ah l'œil de l'œil. Tu vois. Et en fait, oui. Et en fait, on est meilleur. On est un peu plus tranquille, on est un peu plus probablement un peu plus réfléchissant, on est un peu plus
réfléchissant.
Oui, bah, réfléchissant.
Vous réfléchissez.
Et, oui, bon, on dit bien les sachants.
Bah, oui.
On peut bien dire réfléchissant. Et je pense vraiment à ça parce que je m'intéressais déjà dans le monde dans lequel j'évoluais quand je faisais Ciel Bombardi. Il y a 30 ans. Mais vous savez, il y a 30 ans, quand cette image qui tombe partout, on voit Patrice et moi qui nous cassons la gueule d'un taureau parce que le taureau est gros, il tousse et tout le monde se marre et tout. Oui, mais en fait, on était sur le taureau pour lancer
un
magnéto sur l'influence des pets de vache sur le trou de la couche d'ozone. Donc, véritable problème aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne mange plus de bœuf, en gros, il y aura presque plus de problèmes d'eau sur la planète. Je dégrossis. Non, mais on n'est pas loin. Oh, ben 2000 litres pour faire un steak de 100 grammes.
Oui, donc il y avait de la légèreté, mais pour aborder les sujets sérieux.
Moi, je voulais
et
qu'à
un
coucou,
peu en avance.
Je voulais qu'à coucou, on apprenne toujours quelque chose. Et un peu en avance. Patrice qui se casse la gueule sur un vélo électrique, tout le monde rigole, non, c'est quoi cette daube ?
Oui.
Vélo électrique.
Oui.
Voilà.
Comme l'époque a changé, est-ce que vous avez changé ?
Oui, aussi je suis toujours
est-ce
un peu.
Est-ce que vous êtes adapté à l'époque telle qu'elle est aujourd'hui ?
Mon corps, moins.
Ah,
mon
oui.
corps ne suit pas mon cerveau. Ah. Mais ça, vous verrez. Ça vous arrivera aussi. Mais est-ce que j'ai changé ? On a toujours un peu peur d'être un peu le vieux con du jour quand on a une réflexion sur le passé, parce que chaque génération peut dire que c'était mieux avant, en gros. À part ceux qui ont vécu en 50, c'était pas mieux avant. Mais enfin, avant la guerre, oui, mais pas pendant. Mais en 60, les années 50-60 étaient merveilleuses. En 70, la décade 60-70, 70-80, machin... Tout est devenu... Si vous regardez les discours des présidents de la République les uns après les autres, depuis De Gaulle, en gros, c'est... ça a été très dur cette année, ça va être pire. En gros. Vrai ou pas vrai ?
Pas faux.
Voilà. Et bien, la société est comme ça. Donc c'est juste à un moment donné... moi, je suis sur le cul, par exemple, de voir le nombre de gens de 25-30 ans qui ne veulent pas faire d'enfants. C'est ouf !
C'est au nom de la planète, hein ?
Bah oui.
C'est parce que ça les angoisse et puis qu'ils ne savent pas dans quel monde naître leurs enfants.
J'ai bien compris, c'est pour ça que
je
le dis.
Ah oui, mais vous trouvez ça terrible.
Donc c'est très grave, bien sûr. Et nous, il y a 30 ans, on parlait des pets de vache en déconnant, mais c'était quand même pour dire qu'est-ce que c'est que cette étude scientifique.
Il y a qu'à coucou, et puis on a eu avant, c'est encore mieux l'après-midi.
Ah oui,
et
oh, oui on très a... très avant.
Non, mais on a une petite archive sympa.
Ça, c'est quand je vous ai quitté.
C'est la première. Vous m'avez quitté pour retrouver Jane Birkin qui avait un plâtre.
Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est une première. Alors on est un petit peu, hein, forcément, on a un peu la voix qui chevrotte, on est un petit peu tendu, tout ça. Il va y avoir plein de choses dans cette émission. Ça va durer jusqu'à 17h10. Traditionnellement, ça va durer jusqu'à 17h30. Mais là, il y a du vélo, le tour de l'avenir, tout ça. Donc, il en faut un petit peu pour tout le monde. Il ne faut pas tomber, ce serait un petit peu bête de casser l'autre. Ou alors que moi, je tombe, ce serait l'horreur, parce qu'on est quand même en direct.
Tiens.
Il faut le dire.
Voilà.
On se débrouille très, très bien, je trouve.
C'est mignon.
Et c'était sur France 2.
C'est d'autant plus mignon. Oui, c'était la première qui était donc après l'émission d'Aujourd'hui Madame, qui était un peu, pas les tricoteuses, ce serait méchant, mais c'était une autre ambiance, hein, autre salle, autre ambiance. Et je me souviens très bien qu'en fait, il y avait une porte pour rentrer sur cette découverte, c'est le terme qu'on emploie, et elle m'a poussé parce que j'y arrivais pas, en fait. J'étais totalement paralysé. Et c'est elle
tétanisé.
J'étais paralysé, j'arrivais pas à rentrer, j'arrivais pas. Et c'était en direct, et le mec disait go, go, go. Et elle m'a poussé, et voilà, c'était le début d'une vie de télévision, avec plus ou moins de bonheur, mais plutôt des bons souvenirs.
Pas mal.
Moi, Christophe, je n'ai pas connu Coucou, c'est nous, Ciel Bombardi, devant le poste.
Non. Même Ciel Bombardi, t'as pas connu.
Oui, je n'ai pas connu, j'ai connu ça grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet. Ensuite, j'ai connu, surtout à 18h, les Jeux, Une famille en or, La roue de la fortune, et surtout des moments qui sont assez légendaires.
Je sais pas ce qui nous arrive.
On va le savoir plus tard.
Vous avez la soirée de libre ?
Oui.
Ah oui ?
Oui, ma mère m'a donné congé.
Un petit tour dans la capitale ? Ah. Un petit tour dans la capitale ?
Directement à l'hôtel.
Comment ?
Directement à l'hôtel.
Ça va pas, non ?
Comment si ?
Elle a dit, directement à l'hôtel. Non mais Armel !
J'ai les capotes.
Mais arrête ! C'est pas possible !
Ça s'est terminé comment ?
Alors, c'est très mignon parce que cette femme était très drôle, comme on peut le voir. Et sa fille m'a envoyé par un message privé sur Twitter il y a quelques temps, très, très peu de temps, un mot pour me dire « Je voulais vous informer de la mort de ma maman qui, depuis 20 ans, se balade avec cette cassette et à qui elle rencontre. » Elle montre ça parce qu'elle avait passé un moment, on avait passé un moment vraiment très rigolard, comme on a pu en passer dans les jeux. Voilà, on avait... Ma façon d'être dans les jeux était un peu différente. C'était très proche des gens aussi.
Ouais, ouais. Armel.
Oui, Armel, oui. Et on embrasse sa fille, sa famille. Exactement. Et sa famille.
Et dont on salue ce soir la mémoire. Ouais. C'est chouette d'avoir des nouvelles, de voir que les téléspectateurs, les participants de vos émissions étaient tellement attachés à vous qu'ils vous donnent de leurs nouvelles, en
quelque sorte. Oui, mais c'est pas la première fois. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui disent « Oui, De Chavannes, il n'aime pas les gens, tout ça », j'ai envie de leur... leur péter le nez, parce que c'est tout ce qui... Un jour, TF1 m'a dit « Ouais, de toute façon, tu dis même pas, t'es odieux avec les techniciens. » Bon, alors, ceux d'aujourd'hui, ils sont évidemment plus jeunes et je les connais moins bien, mais sans déconner, il n'y a pas un mec de mon métier qui connaissait les techniciens par tous leurs prénoms et tous. Et puis, c'est pas une posture. J'ai toujours été proche des gens qui bossent avec nous, qui quelquefois m'attendaient à leur grande âme parce que j'étais un peu en retard aux enregistrements. Voilà, il m'est arrivé d'aller à la campagne chez Francis Bouygues à l'époque et j'étais copain avec le garde. Donc, vraiment, donc, dans les jeux, j'ai apporté quelque chose qui était ça, qui était j'aime les gens véritablement, c'est pas une posture, je fais pas semblant. Et la preuve que cette femme d'un certain âge m'écrive pour me parler de la mort d'Armel, ça m'a touché et je suis très content que vous montriez ça, ça me permet d'en parler, parce que c'est assez symbolique et symptomatique de ma relation avec les gens, y compris dans les jeux.
Et à la télévision depuis si longtemps. Et désormais, tous les samedis soirs, les Français ont rendez-vous avec vous. Dans quelle époque ? Animé par Léa Salamé avec Philippe Cabrivière et Christophe de Chavannes en invité permanent.
En invité permanent.
Voilà.
Moi aussi, j'ai failli faire la bourde d'invité principal l'autre fois.
Ah oui ?
Oui, bah oui, c'est parce que dans notre métier, on dit plutôt invité principal. Mais j'ai trouvé qu'invité permanent était une situation qui me saillait bien. Qu'est-ce qu'il dit ?
Est-ce qu'on peut faire court, là, en fait, l'invité permanent, s'il vous plaît, parce qu'on doit passer à table ?
Oh, mais moi, c'est fini. Oui,
ben voilà. Donc,
il y a d'autres invités aussi.
Muso, Zoé Bruno, j'étais à ça. Muso. Balancé. J'étais à ça.
Oh, je suis trop content. Il y a un nouveau film avec Marina Foïs qui sort au cinéma. Tu veux venir le voir avec moi ?
Non, merci.
À toi, évidemment. Au niveau cinéma, t'es raté pas crête. Hein.
Mais pas du tout. C'est juste que je devais jouer dans le film. Mais oui, j'ai été repérée par une directrice de casting, j'ai passé les essais.
Bon, quand je te dis go, tu te présentes.
Go ! Ah ! Bonjour, je m'appelle Zoé, je suis sympa. Je suis grande de 1m75, je vends des fringues dans une boutique du centre-ville et j'ai été repérée en casting sauvage.
Mais pourquoi toi ?
Mais pourquoi pas ?
Super, merci. Alors maintenant c'est facile. Tu rentres dans la salle, tu la découvres, t'as soif, tu te sers un verre d'eau. Tu le bois, tu le reposes, t'es fatigué. Tu t'allonges, tu chantes une petite chanson, tu te relèves, tu sors. C'est bon, t'as compris ? Go !
Tout d'un coup, j'ai hyper stressé, mais j'ai repensé à nos cours de théâtre. Ça vous ennuie si je fais le cri primal ? J'avais appris ça dans mes cours de théâtre quand j'étais petite.
Non, non, vas-y.
Ah !
Ça va pas, non ? Bon, allez, go ! Quelle pièce ! Je n'ai pas très bien réussi. C'est vachement dur à faire.
Bah oui, attends. C'est hyper dur de boire un verre d'eau.
Quand je te dis go, tu chantes une petite chanson. Go !
Et t'as chanté quoi ?
Bah, une petite chanson.
Et je chante une petite chanson. Et je chante une petite chanson. Et je chante une petite chanson.
Bon. Je suis désolée, c'est ma faute. Je fais une erreur.
Ah. Je reprends depuis le début?
Non. Ah. Suivante!
Tant pis, mais moi j'irai, hein. Avec ou sans toi?
Non, mais t'as raison. Je vais venir avec toi. Oh, c'est con, j'étais à ça de faire du cinéma.
Ah. Bienvenue à la table de C'est à vous, Christophe. On est heureux d'accueillir Doria Tillier, Jacques Weber. Salut à tous les deux.
Bonsoir, bonsoir.
Oui, oui, on vous applaudit. Vous êtes tous les deux à l'affiche de L'origine du mal de Sébastien Marnier qui est en salle mercredi prochain. On en parle dans un instant. Juste le temps que Louis, qui était là il y a deux secondes...
Ah, pardon.
Louis, que vous nous présentiez le menu de ce soir.
Oui, tout à fait. Alors ce soir, donc bonsoir, je vous ai préparé une entrecôte de veau laquée à l'ail noir, du céleri rave travaillé comme un risotto et quelques girolles.
Très bien, l'ail noir.
Très bien, très bien.
Parlez bien la bouche pleine.
Pardon, très bien l'ail noir. J'aime pas le blanc, j'adore l'ail rosé, j'adore l'ail violet, l'ail noir.
Non mais c'est magnifique.
Je savais même pas qu'il y avait plusieurs ails.
Des os.
C'est l'histoire d'un patriarche qui vit dans une luxueuse villa du sud de la France, entourée quasi exclusivement de femmes. Une épouse fantasque, une gouvernante inquiétante et deux filles qui, à défaut d'en être, portent des prénoms de garçons. Georges, avec laquelle la cohabitation devient irrespirable, et Stéphane, enfant illégitime mais qui a bien l'intention de se faire une place dans cette drôle de famille.
Comment est-ce que tu as fait pour me retrouver ?
Serge vous avait dit qu'il avait une autre fille.
Vous lui ressemblez pas beaucoup. Serge a toujours eu beaucoup de succès auprès des femmes. Il y en avait forcément de moins jolies que d'autres.
J'imagine que pour vous, la situation a pas dû être facile tous les jours. Mais s'il vous plaît, je vous demande de ne pas revenir.
Depuis mon accident, c'est devenu compliqué ici. Ils veulent me mettre sous tutelle.
Si on veut que tout se passe bien, il faut se dire les choses. Stéphane. Vous n'êtes pas d'accord avec moi.
Je vais avoir besoin de toi.
Pour faire quoi?
Je veux que tu témoignes en ma faveur. Je vais pas me faire piquer tout mon fric par ces deux salopes.
Espèce de vieux mâche.
Toi, tu la laisses faire.
Oh, moi, tu sais tout ce qui peut t'emmerder.
Aidez-moi quand même. Je peux vous demander pourquoi vous lui en voulez autant?
Il vous a bien fait la leçon, dirais-je.
Arrêtez les filles, vous me brisez le cœur.
On peut te l'arracher aussi.
Ici, c'est chez moi! Vous êtes dans ma maison!
Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on voit dans le sang.
Pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de pire au monde. C'est comme un poison qu'on a dans le sang qui contamine et qui rend malade. Qu'est-ce que c'est toxique, cette famille.
Ah, c'est toxique.
Incroyable,
c'est toxique, hein,
à souhait. Et vous prenez un malin plaisir à vouloir arracher le cœur de votre père, ouais, qui ne supporte même plus que vous respiriez à côté. Enfin, c'est une ambiance comme ça, incroyable. Mais l'origine du mal, c'est vous, Jacques. C'est le père, c'est
ah
le
bon,
mal.
Ah bon, vous, vous avez bon, ah
oui. Oui, c'est la fin du patriarcat vue, mais... que met en scène Sébastien Marnier. Vous êtes un sale type, mais alors vous vous en prenez plein la gueule.
Faut pas tout dire. Disons que c'est un patriarche qui, de mon point de vue, puisque je joue, a beaucoup souffert. Il a eu un AVC, il est très amoindri.
Il vacille.
Très, très affaibli. Son pouvoir, justement, est en train de se fissurer. Délicité. Voilà, et c'était assez magnifique à jouer. Et ce qui est assez jouissif, c'est que tout ça est en effet totalement sordide. Et que l'origine du mal peut être également le fait que nous soyons totalement fascinés et jouisseur de l'horreur de ce que peut avoir de sordide une famille. Tout apparaît très beau, la propriété est magnifique, le décor est somptueux, quoique légèrement inquiétant. Et tout ça nous fascine, alors même que c'est réellement un film sur l'horreur d'un monde, sur l'horreur du patriarcat, sur tout ça. Oui, c'est sûr que c'est ça en filigrane. Mais ce qui est vrai, ce que j'ai toujours constaté dans les diverses projections qu'on a vues, c'est que ça fait beaucoup rire. Et ça me surprend énormément. c'est vrai.
Oui, ça fait... Parce que c'est une cruauté, d'une méchanceté, hein, d'une monstruosité qui est effectivement jouissive. Et ça ne m'étonne pas de vous voir dans ce rôle-là, Doria.
Bah oui, c'était logique. oui, enfin, c'est monstrueux, mais c'est aussi un peu
la vie. Enfin, vous dites c'est un sale type, c'est un peu tous des sales types, enfin des sales nanas, et monstrueux, ou en tout cas avec leur part d'ombre. Et c'est toujours un petit peu drôle, ces choses-là.
L'origine du mal aussi, c'est l'argent, Doria, non ?
Bah oui, c'est un film sur la famille et sur l'argent, parce que Laure Calamy, enfin le personnage de Laure, débarque dans cette famille. Qu'elle ne connaît pas, un père qu'elle ne connaît pas, mais elle vient d'un milieu très différent. Elle emballe des sardines dans une usine et elle arrive dans cette maison avec dans ce luxe qui lui est très étranger, quoi. Donc c'est cette confrontation-là qui est un peu marrante.
Puis l'origine du mal, je crois que c'est également le fait que pour établir une structure solide, il faut mentir. Et en fait, c'est vrai. Et c'est quand même un énorme mensonge, cette famille, cette puissance patriarcale qu'il a, cette propriété, tout ça ment énormément. Et à partir du moment où on y instille, où on y introduit une part de vérité, c'est un peu le théorème de Pasolini, bon, dans un tout autre style, mais c'est un peu ça. On met un petit quelque chose qui vient et qui commence à manger tout, à grignoter tout le mensonge et tout apparaît. Et là, les familles s'écroulent, enfin, totalement, ouais. Quelles soient d'ailleurs. Ça m'a fait penser un peu à du Chabrol Grande Cuvée, quoi. Avec une bonne empruntée à Hitchcock, Sébastien a tenu à tout prix qu'elle ait la même coiffure que la bonne célèbre dans Absolument. Rebecca. C'est un film dont l'un des personnages sublimes du film, c'est le décor aussi, qui est absolument incroyable.
Enfin, bien filmé. Patrick.
Oui, j'ai une petite archive pour vous, Jacques. Petite archive pour un grand moment.
Qu'est-ce qui va s'arrêter ?
Non, c'est un grand moment pour vous, en cette année du
400. Parce que j'ai vu débuter ce garçon.
Ah oui, non, c'est une archive récente, une archive récente de cette année, 400e anniversaire de la naissance de Molière. Vous avez, vous êtes vu décerner un Molière d'honneur, et c'était un beau moment pour tous ceux qui assistaient à cette cérémonie.
Gentil, mais oui.
Le Molière d'honneur à Jacques Weber.
Merci à tous, merci. Vous dire que je suis touché et impressionné est un euphémisme. Comment ne pas l'être quand je songe à celles et ceux avec lesquels, pendant près de 50 ans, j'ai joué. Oui, j'aime ce mot, jouer sur les planches, terrorisé comme un enfant, amoureux comme un jeune homme. Bien sûr, souvenirs et visages émergent plus que d'autres. Mes premiers pas sur scène avec Pierre Brasseur, mon premier cours d'art dramatique, avec celui qui deviendra mon maître de toujours, François Florent. Merci beaucoup.
50 ans sur les planches, une pièce par an. On a regardé. Vous, depuis 16 ans, il n'y a pas eu une seule année de relâche. Et on découvre à l'occasion de cette cérémonie que c'est votre premier Molière, qu'on ne vous a jamais décerné de prix.
C'est même rigolo, parce que la première fois que j'ai eu une petite récompense, c'était un César du second rôle.
Ah oui.
Et au cinéma, où on a dit toujours, Weber, ce n'est pas un homme de cinéma, c'est un homme de théâtre. Alors bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Oui, c'est vrai que j'ai choisi. Et puis, faut aussi être très sincère, le cinéma n'a pas proclamé son désir envers moi. Et ça avait sans doute des raisons. Mais maintenant, je me sens bien. je me sens bien. Il y a quelque chose qui s'est dénoué. Mais un monsieur que tu as très bien connu, Pierre, c'était Serge Rousseau. Il m'avait dit, c'était mon premier agent, il m'avait dit, ça, pour toi, ça se fera quand tu seras vieux. Je dis vieux, c'est-à-dire quoi, 50, 45? Il me dit non, beaucoup plus tard.
Ah oui.
Et là, j'étais curieux après lui, mais il semblerait
qu'il avait du pif.
Et oui, il avait du nez. Ben oui, ça me poursuit, l'histoire du nez.
L'histoire du nez. Doria, on parle de la passion de Jacques pour le théâtre, mais votre coup de cœur pour ce métier-là, vous l'avez eu au théâtre, en assistant, en coulisses, à une pièce de théâtre, pour la première fois à 6 ans.
Oui, c'est vrai. Je veux dire, théâtre, cinéma, c'est une passion pour le divertissement, on peut dire. Donc, ça pourrait même être au cirque, quoi, vous voyez. Même, je me souviens, j'étais en vacances dans une sorte de Club Med. Moi, j'adorais c'était des sortes de géos qui faisaient un spectacle. Enfin, voilà, dès qu'il y avait un spectacle, j'avais envie d'être dedans, quoi.
Mais moi, je l'ai découverte quand elle a présenté la soirée des 30 ans de Canal. Elle était absolument formidable. Je crois que je voulais glisser dans un escalier, si mes souvenirs sont bons. Non, je ne me souvenais pas. Elle était vraiment formidable.
Glisser dans l'escalier en la voyant.
Oui, au détour d'un des escaliers, vous avez dit à Doria qu'elle était géniale.
Dans l'escalier en la voyant, c'est ça?
Non, je lui ai glissé dans l'escalier. Dis donc, si on parle de glisser, moi je veux bien. Un soir, on sort d'un hôtel avec Jacques, si je peux, deux secondes, petite anecdote de vieillard. Ouais. Et on était allé fêter, je ne sais pas quoi, on avait fait quelque chose ensemble. Ouais. Et on a fini dans un hôtel de la Madeleine, de pas loin, enfin, la Madeleine à Concorde, on a bu deux verres, trois verres. Et à la sortie, 2h du matin, il était debout avec ses clés de voiture et j'ai pris les clés, j'ai dit, si tu fous, j'ai dit, je te prends tes clés et puis tu viendras chercher ta voiture demain. Il m'a dit, non, t'es con et tout, puis je l'ai appelé un taxi, il est rentré et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, merci. Non mais voilà, c'est un vieux souvenir de pote.
Oh, d'accord, ok.
Non mais c'est un souvenir de pote. Ben,
on
oui,
attendait
on
un peu la chute, c'est vrai.
Oui, oui.
C'était quand même sympa.
Oh, ben, oui,
mais oui, n'hésitez pas, à la moindre anecdote, venez débouler, vous serez invité anecdote. Permanent.
Foutez-vous bien de ma
gueule. Chute.
grâce à moi, il est là.
Du coup, on n'a pas le temps de passer à un extrait de La Belle Époque dans lequel Doria chante, sachant que vous chantez dans le film aussi, ni un extrait de La Flamme dans lequel vous dites que c'est pas vous qui avez pété. Donc, on avait tout ça sous le coude pour reparler de Doria dont on adore aussi.
Il faudra voir le film.
Exactement. Vous reviendrez. Merci, l'invité intermittent. Il faut aller voir l'origine du mal dans les salles. C'est le 5 octobre prochain. Et la bande originale du film est composée par Pierre Lapointe et Philippe Brault, et c'est un faux disque que je montre, donc je n'ai pas le droit de vous le montrer. Mais il n'existe pas encore physiquement.
Ah bon, mais en tout cas, j'ai un titre dessus. Je chante une chanson.
Mais je viens de le.
C'est pour ça qu'on voulait passer
mais voilà.
Titre où vous chantez.
Tout ça est très désordonné. Comme d'habitude.
Moi, je trouve ça sympa.
Mais c'est
sympa.
Elle a plein de talent, cette fille.
Exactement. Est-ce que vous me permettez.
Excusez-moi
s'il vous plaît.
De l'avoir souligné. Hein.
Mais je vous en prie.
Ah, j'ai eu peur.
Tout de suite, c'est les actualités de Bertrand.
Bertrand.
Oui, jingle spécial Coolio ce soir. Le rappeur dont on a appris la mort cette nuit, c'était toute mon enfance. Donc je voulais le saluer. Toute mon enfance et toute ta crise de la quarantaine, Patrick. Je sais pas. Bon, bref. Bonsoir, à la une.
Pardon,
oh.
C'était Stevie Wonder.
Oui, oui. Évidemment, bien sûr, parce que c'était un sample. À la une de ce 29 septembre. Attendez, non, je suis plus sûr. Bonsoir ou bonjour, je sais plus, je suis perdu. Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Bonsoir Jean-Marie Le Pen.
Bonsoir.
Bonsoir car nous sommes le soir.
Eh ben oui, bonsoir car nous sommes le soir, j'aurais dû y penser. People. Et cette enquête dans le 13h de TF1 ce midi qui est partie en Touraine dans le village de Possé-sur-Cise dans lequel Mick Jagger a ses habitudes. Les commerçants s'en souviennent et en anglais s'il vous plaît.
Il me dit dans un anglais très pur, can you explain how we make the rillette?
Let me explain you, Mr. Jagger. You put some gras in a box, you wait, and then you put it on the tartoche. Voilà, Gérard Larcher likes this, best client of the boutiques. Alors, Mick Jagger, certes, oh là là, mais dans le village, ce n'est pas la star qui a retenu l'attention de la poissonnière.
Je l'ai vu, je l'ai servi. Sympathique, très agréable à servir, pas difficile, pas exigeant, mais je n'ai pas servi que lui ici.
Oh, allons bon, mais qui d'autre? Paul McCartney, Lady Gaga, Patrick Cohen?
J'ai servi Annie Cordy.
Oh. Eh oui, et une fois du Merlan à Madou la Niçoise. Eh ben oui, ben on en apprend tous les jours. C'est Champs-Élysées ce village, reportage au cours duquel une image m'a beaucoup intrigué.
La présence d'une légende que Jean-Pierre, 80 ans. Non. Célèbre à sa manière.
Alors, vous avez la même réaction que j'ai eue au premier visionnage du reportage. Vous vous dites, mais que fait cet homme? Il n'est quand même pas en train de... Eh ben si, il pisse devant les caméras du 13h et pas n'importe où.
Est-ce que vous savez à côté de quelle propriété vous êtes, là?
Oui.
C'est-à-dire?
Eh ben, comment il s'appelle? Mick Jagger. Chaque fois que je passe et que j'ai... un besoin naturel, je m'arrête là.
Bah oui, un hommage comme un autre. Hein. Moi, personnellement, il m'arrive de chier régulièrement devant la maison d'Emile et l'image. Voilà. Oui, parce qu'ils sont en coloc. Voilà, enfin bon, bref. Allez. Prenons des nouvelles de Joe Biden. Bon, ben oui, hier, le président américain a commis une boulette. Il a simplement pris la parole en public.
I want to thank all of you here, for including bipartisan elected officials like Representative Governor, Senator Braun, Senator Booker, Representative Jackie, are you here? Where's Jackie?
Ah merde, il me demande où est Jackie. Qui lui dit Pépé Tu... Bon, t'as bien vu, ça fait quelques mois que Jackie ne vient plus trop à la maison. Le téléphone sonne moins, c'est parce qu'elle est... Ouais. Bah, elle est partie pour un long voyage, quoi. All inclusive to the sky. Oui, le président américain a demandé des nouvelles d'une personne décédée depuis 2 mois.
Quoi, tu as fait un Skype avec la reine d'Angleterre hier?
Oui, voilà. Il faut le coller devant Cyril Ferraud avec un bon plaid et qu'il arrête de prendre la parole en public parce que c'est plus possible. Mais heureusement, pour éteindre l'incendie, il y a quelqu'un. Elle s'appelle Jean-Pierre. Jean-Pierre, Karine Jean-Pierre, porte-parole de la Maison-Blanche. Et elle a un master en pipeau.
He knows that he's going to see her family this coming Friday. There's a bill signing that's going to happen in renaming a VA clinic in Indiana after the late congresswoman. He knows that he is going to see her family, and she was a top of mind.
Eh oui, Karine Jean-Pierre, c'est le bon pote qui couvre quand tu devais rentrer à 22h et que tu en déchirais à 6h du mat, mais qui répond à ta femme. Non, non, il était avec moi, on a joué au Mikado, en buvant du Pampril, jusqu'à 21h45. Dans le reste de l'actualité, j'ai une confession à vous faire, je suis Bill Murray. Enfin, j'ai l'impression d'être Bill Murray dans le film Un jour sans fin. On pensait peut-être passer à autre chose, vraiment, après 24 heures de commentaires et de débats. Eh ben non, c'est le jour de la marmotte.
Je regarde, je vois ni doudoune, ni col roulé, ni
ce qui fait bon sur le plateau, mais je vois que vous en avez mis un vous-même. Bon.
Ne vous inquiétez pas, j'ai pas le col roulé, mais j'ai l'écharpe et j'ai le manteau.
Merci à Jean-Claude Dessé qui a mis un col roulé quand même.
Non, mais je regarde la matière. C'est désagréable. Est-ce que tu penses pouvoir batifoler encore cravate au vent longtemps?
Non, non, je vais mettre ma doudoune.
Vous portez le vêtement à la mode.
Ça fait référence au col roulé de Bruno Le Maire. Alors rassurez-vous, si vous êtes là, par le col roulé, il y a une nouvelle pièce dans la machine à com.
Moi, ça y est, par exemple, chez moi, ma femme et moi, on a décrété, on ne se sert plus du sèche-linge, on éteint le linge. Honnêtement, c'est pas très compliqué à faire.
Voilà, après les ministres qui portent des cols roulés, voici donc ceux qui sont fiers d'expliquer qu'ils ont troqué leur sèche-linge contre un étendoir. Quelle époque, Christophe ? Résultat, comme avec le col roulé, en découle des anecdotes fascinantes sur les chaînes info.
Je n'ai pas de sèche-linge à titre personnel. J'étends mon linge, donc ça fait quand même 30 ans que j'étends mon linge. Voilà. Ça ne me pose aucun problème.
Voilà, et je suis sosie vocale de Marine Le Pen et de Muriel Robin à la fois, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Et toujours à propos de sobriété climatique et de sèche-linge, attendez, si vous me permettez 2 secondes, j'ai une blague à envoyer à Pascal Pro. Il va adorer, je suis sûr.
Sur... la séquence Le Gendre. Quelqu'un me dit, et c'est vraiment à la fois drôle, pertinent et très intelligent, tu éteins le linge et tu coupes le chauffage. Ton linge ne sèche jamais. C'est tout à fait vrai.
Oui. Je t'avais dit que ça lui plairait ou pas. Elle est délicieuse. Mais pas... attends,
il y a
peut-être des gens qui n'ont pas compris la vanne. Est-ce que tu pourrais l'expliquer? Parce qu'elle est... Explique-la.
Si tu éteins ton linge, si tu éteins ton linge et qu'il n'y a pas de chauffage, évidemment, il est possible que tu partes avec une chemise mouillée chez toi.
Bon. Oh bordel, que c'est bon de rire. Non mais sérieusement, après les cols roulés J+2, on en est aux politiques qui parlent de leur étendoir, mais ça va aller jusqu'où cette histoire?
Vous êtes sur BFM TV, suite de notre édition spéciale Col roulé.
Oui Mathieu, je rappelle l'information principale de la journée, cette déclaration d'Olivier Véran à l'issue du Conseil des ministres. Si chaque Français s'équipe d'un boudin de porte, nous passerons l'hiver.
Nous y reviendrons, Bertrand. Priorité au direct. On se rend tout de suite sur les quais de Seine où Elisabeth Borne est en train de laver son linge à la main. La première ministre lave son linge à la main après le tuto « Comment fabriquer sa lessive soi-même » de Gabriel Attal aujourd'hui. C'est un nouveau signal fort qu'envoie l'exécutif.
Merci Mathieu. Plus d'infos à suivre, restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Notre grand débat, Tancarville ou sèche-linge, avec nos éditorialistes. L'info continue demain. Bonne soirée.
Bravo Bertrand. Les actualités, c'est tous les soirs dans C'est à vous. Quelle époque, samedi soir, avec Léa Salamé, Philippe Cabrières et Christophe de Chavannes.
Un petit mot à mes amis, belle simplement sur RTL TV.
Les orages de la vie.
Merci beaucoup, c'est tout, voilà.
Voilà, la première a été diffusée le 27 septembre et ça a cartonné, voilà, c'est sûr. Voilà, c'est Christophe de Chavannes à la télé belge. L'origine du mal, c'est dans les salles le 5 octobre prochain. Merci beaucoup, cher Doria. Merci Jacques, à très bientôt autour de la table de C'est à vous. Si vous voulez bien vous tourner vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs, tout de suite, Mathieu Vidard, la soirée science grand format, ce soir Titanic au cœur de l'épave. Nous, on se retrouve demain en bon état, hein, à 19h en direct. Bisous, ciao, bye.